Et la question que nous vous posions hier, bah forcément, on parle d'élections un petit peu partout. C'était les européennes il y a un mois de cela. Et en France, depuis la dissolution de l'Assemblée, eh bien, nous allons, enfin, les Français vont ce dimanche se rendre aux urnes pour la deuxième fois en 10 jours pour le second tour de ces élections. Alors, la question est simple. Vous disputez-vous en parlant politique au sein de la famille? Une question intéressante. Ma foi, Lise, est-ce que les auditeurs ont tranché cette question? Est-ce que c'est sujet à débat au sein de leur
Alors, c'est sujet à débat, mais c'est pas tout à fait tranché, Didier. Alors, sur Facebook, on est à 48% de oui pour 52% de non. Donc, une très petite majorité pour la non-dispute. Par contre, sur Insta, on est à 61% de oui pour la dispute. Et sur X, on est à 67% de oui pour la dispute. Donc, on voit que ça a l'air d'être, un sujet qui est tout à fait polémique. Et on va demander son avis à notre invitée, Myriam Ilouz, psychologue et psychanalyste. Bonjour.
Bonjour, Lise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Est-ce que ça vous paraît normal, Myriam Ilouz, qu'on se dispute en parlant de politique en famille?
Il est normal tout court de se disputer en famille. La famille est le lieu des tensions. C'est aussi le lieu d'affirmation. Et c'est le lieu le plus éminemment politique en soi. Donc, se disputer quand on parle de politique dans le lieu le plus politique de nos vies, c'est normal. La famille est l'enjeu des tensions, des pouvoirs, des émancipations, et puis de la réactivation des autres tensions qui persistent au sein des familles, entre frères, entre sœurs, parfois entre mari et femme. Et oui, c'est comme ça, dans les familles, ça se dispute. Mais c'est pas pour autant que ça ne s'aime pas.
C'est exact. Alors, souvent, on a, je ne sais pas si c'est un cliché ou si c'est souvent vrai, mais on a l'impression que on est plus à gauche quand on est jeune, peut-être parce qu'on est plus idéaliste, et ensuite on vire un peu plus à droite après. Est-ce que c'est normal du coup qu'il y ait souvent, quand on a des discussions politiques en famille, des conflits de génération, Myriam Ilouz?
Bien sûr, Lise Ben Kemoun, les conflits que vous appelez de génération sont souvent le fruit de la nécessité pour les enfants de se séparer des parents. Et à l'âge, quand les enfants grandissent, qu'ils deviennent adolescents puis de jeunes adultes, ce qu'ils cherchent, c'est à s'émanciper de la figure de parents tels qu'ils étaient quand ils étaient très jeunes enfants. Et une des façons de se séparer de ses parents, de s'en émanciper, de s'en éloigner, eh bien, c'est surtout de ne pas penser comme eux. Alors, une façon de ne pas penser comme ses parents, c'est évidemment d'avoir des opinions politiques différentes. Et puis, vous avez bien raison, il y a un idéalisme, il y a une forme d'adhésion à la croyance d'un monde plus juste quand on est plus jeune. Et la désillusion vient souvent avec l'âge. Mais vous voyez, la cartographie politique est très différente de celle que vous et moi avons connue. Lorsque nous étions jeunes, nous avions cette croyance en des hommes politiques providentiels, en un parti providentiel. Les jeunes aujourd'hui sont très différents et ils sont d'emblée désillusionnés. Pas tous, mais beaucoup. Le rapport à la politique et aux hommes politiques est très différent en 2024 que ça n'était en 81, quand vous et moi votions probablement pour une de nos premières fois. Alors, est-ce que les jeunes sont plus à gauche qu'à droite? Eh bien, disons que l'ancienne gauche en France, en tout cas, incarnait sans doute des valeurs auxquelles les jeunes pouvaient s'identifier. La gauche d'aujourd'hui, je n'en suis pas certaine. En tout cas, j'ose espérer que non, surtout.
Oui, bien sûr. Alors justement, on est en plein débat à 48 heures du second tour en France, Myriam, et la situation politique est particulièrement anxiogène pour les familles juives, puisqu'on a l'impression de se retrouver pris en enclume entre l'extrême gauche et l'extrême droite.
Oui, c'est pas qu'un sentiment. Les Juifs de France, mais je crois aussi les Juifs belges, nous traversons une époque tout à fait inédite. Ce qui rend notre époque inédite, bien évidemment, c'est l'émergence d'une tentative génocidaire du premier pogrom du XXIe siècle sur le sol israélien, auquel l'Europe a répondu, et je crois qu'on peut même dire globalement le monde, a répondu par un soutien et une adhésion aveugle au mouvement terroriste du Hamas. Ça nous a bien évidemment tous traumatisés, ça a opéré une effraction traumatique double, la première bien évidemment est celle du 7 octobre, qui même si elle ne s'est pas déroulée sur notre sol d'adoption en diaspora, s'est déroulée dans le foyer qui est censé être le foyer de sécurité des Juifs, le lieu de repli de la communauté juive, le lieu où, en théorie, dans nos esprits à tous, depuis 48, nous savons pouvoir nous protéger en cas d'agression, quelle qu'elle soit, dans le monde. Eh bien, c'est très exactement au lieu où nous pensions être chez nous que le pogrom a eu lieu. Mais de surcroît, donc ça, c'était le premier traumatisme. Et puis derrière, il y a eu la réponse des nations qui a donné raison, et pire encore, légitimé par la contextualisation du conflit, les violences cruelles qu'ont subies les Juifs de Kfar Aza, de Kfar Berri. Et là, évidemment, les Juifs se sont sentis et se sentent aujourd'hui vivre dans des pays hostiles à leur propre présence. Alors oui, en étau entre l'extrême droite et l'extrême gauche, et je crois bien entendu que les Juifs ne se sentent plus capables de rester tranquilles, heureux, en France ou en Belgique, en Europe de façon plus large.
Pour finir, Myriam Ilouz, vous étiez hier soir à une soirée qui avait été organisée par l'association Agir Ensemble et dans lequel, parmi les intervenants, il y avait l'un le prince vert, celui qu'on appelle le prince vert, le fils d'un des fondateurs du Hamas. Et ce qu'il disait avait l'air de stupéfier l'assistance. Racontez-nous un peu cette soirée.
C'était une soirée organisée par Elnet, donc soutenue par le gouvernement israélien. C'était une soirée de très bon niveau avec des intervenants fort intéressants et qui s'est aussi déroulée à l'occasion, pour l'occasion, de la sortie du livre contre l'effacement du 7 octobre. Le 7 octobre, donc un livre publié par les éditions David Reinhardt, livre auquel j'ai eu la chance de contribuer par un texte. Nous sommes 70 contributeurs à ce livre et certains des contributeurs sont venus prendre la parole pour pouvoir défendre évidemment le 7 octobre et son aspect génocidaire. Mais surtout, vous l'avez dit, est arrivé un peu en guest star, le prince vert, un des fils d'un des fondateurs du Hamas, qui est un fabuleux orateur et qui est surtout très, très engagé aux côtés d'Israël, en ayant bien entendu une pensée très à lui. Et ce que cet homme dit est très simple. Il vient évidemment dénoncer la cruauté, la barbarie de ce qu'il nomme l'ultime cruauté humaine qu'il désigne comme monstrueuse, celle des terroristes du Hamas, mais globalement de tous les terroristes Daesh, ISIS, Hezbollah. Et il vient finalement prévenir le monde occidental que la haine du juif occupe aujourd'hui la scène première des motivations assassines des groupuscules terroristes, mais que demain, bah, ce sera l'Occident. Voilà. Son message est très clair, il est très engagé, c'est un homme qui vient nous parler au sujet du Hamas, de la naissance d'un empire sauvage, et il vient nous expliquer que l'importation de l'intifada en France, qui s'accompagne évidemment de la montée de la violence dans les démocraties, n'a qu'une seule visée, qu'un seul but, c'est bien évidemment déstabiliser l'Occident et venir progressivement envahir les sociétés occidentales.
Merci Myriam Ilouz pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes psychologue et psychanalyste en France. Bonne journée à vous et à très bientôt.
Merci Lisbeth Kemoun, bonne journée.